Vous écoutez Quad Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et je suis Kélis.
C'est parti! Les élections de mi-mandat aux États-Unis en novembre dernier ont propulsé un nombre record de femmes et de femmes racisées au Congrès. Celui-ci est entré en fonction au mois de janvier. Depuis, il n'y a jamais eu autant de femmes en position de pouvoir aux États-Unis. Cela suffira-t-il à ébranler la présidence Trump ? Comment s'articulent les rapports de force entre suprématie blanche masculiniste et militante pour les droits des minorités ? Surtout, la politique a-t-elle un genre ? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on est avec Kémis. Salut, ça va ?
Ça va et toi ?
Oui, ça va. Moi, j'ai un nouveau tatouage depuis la dernière fois qu'on s'est vu.
Trop cool !
Ouais, et je le dois à une tatoueuse qui s'appelle Anna Vanda, donc je vous recommande de regarder les travaux. Alors, et toi, est-ce que tu veux dire quelque chose ?
Bah écoute, non, ça va, les jours se rallongent, donc ma dépression recule, c'est trop bien.
Ta dépression saisonnière.
Ouais, voilà. Je la sens partir et je lui dis au revoir.
See you never. Et alors, est-ce qu'il y a une actu féministe particulièrement chargée ces jours-ci ?
Alors ouais, j'ai vu quelque chose de super intéressant en Espagne. Mmh. Donc les féministes espagnoles qui s'étaient déjà illustrées dans les médias espagnols et français, évidemment, par leur immense marche des femmes. Je ne sais pas si tu te souviens de cette grande photo magnifique. Elles se mobilisent maintenant contre la coalition de centre-droit qui arrive au pouvoir grâce aux voix du parti d'extrême droite, Vox. Oh. Donc, gros bout. Le centre-droit n'a plus peur de se rallier à l'extrême droite. C'est génial.
Pépère Lito.
Et ils se sont notamment fait remarquer en se battant pour l'abrogation de la loi sur la lutte contre les violences machistes.
Ouais. Une priorité, quoi.
Ouais, non mais vraiment, tu vois, genre, ils arrivent au pouvoir et c'est vraiment leur truc, ils se disent « Bon, alors, on va abolir cette loi, quoi. » Enfin, bref. Et donc, du coup, il y a des grosses manifestations qui sont prévues à Séville, à Madrid, à Barcelone, et donc, je dis « Go girls », quoi.
Ouais, on est d'accord. Et alors, pour parler un petit peu de politique en France, je pense que l'info ne t'a pas échappé. Mais il y a quelques jours, donc il y a eu une élection des adjoints et adjointes au maire de la ville de Sarcelles. Et donc, cette élection a été annulée puisqu'il y avait trop de femmes.
Oh là là, mais quel boulet, quoi. Non, mais franchement, je trouve
trop
ça...
Trop dur.
Non, mais je te jure.
Non, mais qu'est-ce que vous voulez, en fait ?
Non, mais c'est trop petit, surtout de la part de l'opposition, d'avoir dit, genre, on annule l'élection parce qu'il y a trop de femmes. Non, mais les gars, quoi.
Ouais, voilà, donc on va voir comment tout ça évolue, ou pas. Et alors, pour revenir à notre thème de la semaine, c'est vrai qu'aux États-Unis, l'année 2018, on s'en souvient, s'est terminée par vraiment un raz-de-marée. Comme le Congrès entre en fonction ces jours-ci, enfin, est entré en fonction en janvier, on a eu envie de revenir sur ce phénomène parce que c'est vraiment un effort politique collectif qui a été très concerté et décidé et qui est vraiment assez inédit en fait aujourd'hui, en tout cas dans le monde. Enfin, en tout cas, on peut dire qu'on n'en est pas du tout là en France.
Pas
ces
du
jours-ci.
Tout.
Donc, il faut rappeler déjà qu'en 1992, on parlait déjà aux États-Unis de The Year of the Woman, donc l'année de la femme en politique, et non pas même pas l'année des femmes, l'année de la femme. Lol. Et donc ça, c'était après l'affaire Anita Hill. Donc, c'était une prof de droit. Lorsque le juge Clarence Thomas avait été nommé à la Cour suprême des États-Unis, elle avait révélé qu'il lui avait fait des remarques à caractère sexuel quand il était son superviseur. Et ça avait vraiment eu un effet d'entraînement en politique. Beaucoup de femmes s'étaient présentées à ce moment-là. Il y avait eu une levée de bouclier.
These last few days have been very trying and very hard for me. And it hasn't just been the last few days this week. It has actually been over a month now that I have been under the strain of this issue.
Et cette année encore, on parle de Year of the Woman, donc c'est pas, ça n'a pas l'air tout à fait nouveau comme phénomène. Il faut dire qu'après la défaite cuisante de Hillary Clinton, il y a eu vraiment un momentum féminin et féministe qu'on a appelé donc une vague rose. Et donc, aux dernières élections de mi-mandat de novembre, 439 américaines qui étaient des personnes souvent issues de la vie civile, parfois sans expérience politique préalable, se sont présentées donc à ces élections, c'est-à-dire deux fois plus qu'en 2016 et un tiers de plus que le précédent record qui était détenu en 2012. Et donc, grâce à ça, les femmes sont désormais 117 à siéger au Congrès américain.
Yes!
42 sont issues de minorités ethniques. Oh, yeah! Et 3 de minorités LGBT+.
Yes!
Il y a au total 100 démocrates et 17 républicaines, donc toujours un petit peu moins à droite. Il y a eu pas mal de premières aussi. Donc il y a Rashida Tlaib du Michigan et Ilhan Omar du Minnesota qui sont les deux premières femmes musulmanes élu au Congrès, donc quand même, il était temps.
Ouais, c'est clair, pour des premières en 2019, quoi, faut arrêter.
C'est clair. Et parallèlement à ça, sans surprise, les candidats républicains ont été en écrasante majorité masculins. Mmh. Donc pour donner un petit peu une image chiffrée de ce Congrès, 85% des femmes du corps législatif aujourd'hui sont démocrates, tandis que 90% des républicains reste des hommes blancs.
Finalement, c'est pas étonnant ces chiffres parce que le Parti démocrate aux États-Unis, c'est un parti qui se situe, on va dire, au centre gauche en France. Mmh. Je ferais peut-être un petit parallèle avec le Parti socialiste en France. Mmh. Hein. Il faut savoir quand même que la vie politique américaine est quand même beaucoup plus à droite qu'en France.
Ouais, c'est pas la lutte finale. Hein,
ouais. Ouais, les démocrates pas du tout. Donc voilà, et d'ailleurs on va pouvoir en reparler un petit peu après. Et les républicains, par contre, oui, là c'est la bonne droite conservatrice. Hein, on peut faire vraiment le parallèle avec l'UMP, en tout cas maintenant LR, pardon. Voilà, les républicains, ce qui est d'ailleurs intéressant parce qu'ils ont repris, enfin l'ex-UMP a repris le nom les républicains. Il a un peu piqué d'ailleurs aux Américains. Clem, je pense que tu pourras nous expliquer à quoi ça sert le Congrès en fait.
Oui, je pense que c'est bien de le rappeler parce qu'on n'est pas toujours au fait de ces détails-là, en tout cas aux États-Unis. Après, on peut comparer avec la France puisque le pouvoir législatif aux États-Unis, comme en France, est constitué de deux chambres qui font voter les lois. Donc, il y a le Sénat qu'on appelle la chambre haute et la chambre des représentants qu'on appelle la chambre basse. Et les deux sont désignés au suffrage universel direct, contrairement à la présidence qui est, elle... fait appel à de grands électeurs, on s'en souvient. Et pour se présenter, il faut avoir au moins 25 ans et être citoyen. Donc en fait, n'importe qui peut se présenter sur ces critères-là. Alors, fun fact, il faut rappeler que la première femme qui a été élue au Congrès américain, elle est assez connue aux États-Unis, mais nous, on la connaît pas du tout en France. Elle s'appelle Janet Rankin. Elle venait du Montana. Et en fait, ce qui est exceptionnel, c'est qu'elle a été élue en 1917, avant qu'une grande partie des femmes, mais pas toutes, aient le droit de vote aux États-Unis en 1920. C'est quelqu'un qui s'est formé en traînant avec la bohème de Greenwich Village à New York. Elle est d'ailleurs devenue suffragiste, donc on dit suffragiste et pas suffragette, puisque c'est une manière de... C'est un terme en fait péjoratif qui a été utilisé pour se moquer des femmes qui demandaient le droit de vote. Mmh. Et on sait aussi qu'elle était a priori lesbienne. Et donc voilà, c'est un personnage vraiment hors norme pour son époque. On la salue. Pour revenir à aujourd'hui, c'est le 116e congrès qui a pris ses fonctions début janvier. C'est un petit peu trop tôt pour l'instant pour tirer des conclusions, puisque les personnes en question ne sont pas au pouvoir depuis très longtemps. Mais est-ce que, Kémy, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu dans quel contexte politique ça se passe tout ça, puisque c'est pas anodin quand même.
Bien sûr. Je pense que déjà, on peut commencer par mentionner le fait qu'il y ait des femmes démocrates, c'est significatif parce que même chez les républicains et même à côté de Trump, l'un des personnages les plus sexistes
au monde.
qu'on puisse voir, en tout cas en politique aux États-Unis en ce moment, il y a quand même des femmes. Et du coup, il faut quand même le mentionner. Donc, on peut mentionner Kellyanne Conway, qui est sa porte-parole et un peu sa yes woman, c'est-à-dire un peu la femme qui va dire oui à tout ce qu'il dit, même ses plus gros mensonges. Elle va dire non, mais elle va trouver une justification. Il y a Sarah Sanders qui est sa porte-parole aussi, donc la porte-parole de la Maison-Blanche. Il y a Melania Trump, qu'on voit de moins en moins souvent, mais il faut quand même la mentionner.
Depuis son épisode du casque colonial.
Ouais, voilà. Et puis sa petite veste aussi. Et puis, bon, bref, en ce moment, on la voit de moins en moins. Elle fait en Floride, etc. Bon.
Elle s'est retirée du truc, genre, c'est bon, I give up.
T'es sûr ? Ne me demandez plus rien. Donc voilà, il y a Ivanka Trump, et d'ailleurs par contre son rôle est vraiment très controversé parce que
donc la fille de Trump,
la fille de Trump, et son rôle est très controversé parce que elle est vue comme étant une conseillère un peu entre guillemets occulte, alors qu'elle a pas été élue, elle a pas eu de poste gouvernemental, etc. Donc elle est au cœur de pas mal de polémiques. Et il y a aussi, on se souvient aussi, d'Omarosa, donc une femme noire républicaine qui était sur plein de plateaux télé et qui était d'ailleurs dans une des télé-réalités de Trump, qui est restée quelque temps à la Maison Blanche. Mais bon, son départ a fait les gorges chaudes. Tout le monde se moquait d'elle parce que il est dit qu'elle a été virée de la Maison Blanche par les gardes, genre security.
Voilà, donc bon, voilà. Oula, ouais. Bon, c'est vrai que c'était un peu la poster woman, enfin on l'envoyait un peu au front, genre c'est regardez, ça. Il y a une femme noire dans notre parti.
C'était d'ailleurs la seule, ouais, elle n'est pas assez longtemps. Puis après, elle va sur les plateaux pour dire qu'elle était raciste, mais j'ai envie de te dire, girl, we knew. Donc voilà. Et puis, mais je veux quand même mentionner ces femmes pour dire que la représentativité qui fait avancer en fait les droits des femmes, c'est pas juste qu'il y ait des femmes. Parce qu'il y en a aussi chez les républicains. Mmh. Et ces femmes-là, elles s'appuient sur des courants donc de suprématie blanche, puisqu'on sait très bien que Trump est soutenu par des partis d'extrême droite blanche, enfin racistes, des courants masculinistes. Mmh. Et elles font partie finalement, elles sont des outils du projet politique masculiniste et antiféministe du coup. Mais bon, il y a quand même des femmes qui réagissent à ces mouvements et à Trump. Donc en 2017, il y a une femme trans, donc Danica Roem, qui a été élue à la Chambre des délégués en Virginie, et elle a battu l'opposant qui avait proposé une proposition de loi transphobe sur les toilettes. Donc en gros, qui disait qu'il fallait pas des toilettes unisexes, enfin franchement, c'est ridicule. Non, mais vraiment, les conservateurs, des fois...
Ouais, non, mais vraiment, un projet politique passionnant.
Non, mais grave. Non, mais sérieux, quoi. Enfin, bref.
Ouais, du coup, beau revers de fortune, quand
c'est
même.
C'est clair. Bien fait pour ta gueule, comme on dit.
Et alors, je pense qu'il faut faire un petit topo plus général sur la place des femmes en politique. Et pour se donner une petite idée, on peut aussi comparer avec la France, puisque nous, c'est ça qu'on connaît de près. Donc en France, l'éligibilité des femmes qui date de 1944, donc en même temps que le droit de vote, il faut savoir qu'elle n'a pas occasionné une meilleure représentation des femmes en politique, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, puisque quand on a le droit d'être élu, a priori, on est élu. En réalité, ça a très peu évolué, la situation entre 1945 et les années 90. Et c'est vraiment grâce à la loi sur la parité que les femmes ont réellement émergé en politique. Puisqu'à ce moment-là, grâce aux campagnes pour la parité, la sous-représentation des femmes est devenue une sorte de scandale national. Et ça a vraiment occasionné une crise démocratique et une crise de la représentation. Comme quoi, il suffit pas d'avoir le droit d'être élu, mais en tout cas, en France, il a vraiment fallu des encouragements aussi par la loi, presque des quotas, en fait. Donc voilà, il faut rappeler que quand on se réjouit simplement du fait que il y a plus de femmes en politique, que ce soit en France ou aux États-Unis, il faut aussi faire très attention à la manière dont les femmes sont promues, parce que souvent, en fait, elles n'ont pas les mêmes carrières politiques que les hommes. Parfois, elles émergent par les biais associatifs. Elles sont plus souvent nommées à des postes locaux. Elles sont souvent moins présentes dans les hiérarchies. Ça, on n'est pas très surprise. Mais en tout cas, il faut bien... voir comment ces différences-là persistent, et notamment le fait que, par exemple, l'ancienneté, l'expertise et le réseau, ça reste vraiment des précarés masculins. D'ailleurs, il y a une sociologue française qui s'appelle Françoise Gaspard qui a étudié comment on construit vraiment la politique comme un domaine réservé et un exercice viril qui est fondé sur une sociabilité et une expression qui reste purement masculine. Et ça vaut, j'ai l'impression, encore un peu partout.
plus tard dans les études qui ont été faites, on disait que tant qu'il n'y a pas un minimum de 30-35% de femmes dans une assemblée, les femmes ont beaucoup de mal à exister et à avancer leurs revendications.
Mais ce qu'il y a de très spécifique aux États-Unis, c'est que en fait, l'entrée en politique des femmes est très nouvelle. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus, Kémis ?
Oui, bien sûr. En gros, ce qu'on constate aux États-Unis, c'est qu'il y a eu un travail de terrain associatif des PAC, donc des comités d'action politique et d'activistes, qui a fait que les femmes ont réussi à se mobiliser et ils ont réussi à mobiliser les femmes. Il est elle.
Et à se motiver.
Et à se motiver. Et les ont motivés. Je pense que c'est... Enfin, j'aime pas le terme parce que c'est aussi un travail d'empowerment, en fait, finalement, puisqu'ils ont réussi à motiver des femmes qui n'avaient pas d'expérience et qui portaient des projets de lutte contre les violences sociales, sexuelles et raciales. Donc, on a, par exemple, un comité d'action politique qui s'appelle Emily List. On a Win, Onward, Vote, Run, Lead. Enfin, on en a pas mal, en fait. Il y a même à Yale, il y a une formation qui s'appelle la Women's Campaign School. Et on voit qu'il y a une progression. Par exemple, ce dernier PAC, à son lancement, l'âge moyen des femmes était 40 ans. Maintenant, c'est 30 ans. Donc, on voit, en fait, que les femmes, elles sont de plus en plus motivées, entraînées et inciter à rejoindre la politique. Et c'est comme tu le disais tout à l'heure, en fait, c'est pas juste de dire vous avez le droit. C'est aussi leur donner les capacités. Enfin, c'est même pas leur donner les capacités, c'est faire grandir et fleurir en elles les capacités et la volonté de rentrer en politique et leur donner aussi des moyens. Donc, on voit par exemple que être une mère célibataire, où c'est plus aussi problématique qu'avant, et qu'il y a pas mal de femmes aussi qui participent à ce programme, à ces programmes, qui sont des femmes racisées. Et c'est fou, parce qu'on voit vraiment la transformation politique, en fait, qui a eu lieu grâce à ces PAC. Un tiers des femmes qui ont postulé pour tous ces programmes, notamment par le programme de Yale, elles n'étaient même pas enregistrées pour voter. Donc, on voit vraiment qu'il y a un exercice citoyen de... on prend en main les choses, en fait. On prend en main la chose publique.
Bon, mais alors après, il faut un petit peu nuancer aussi notre enthousiasme, parce qu'il y a quand même des freins dans la société qui s'opposent à cette entrée des femmes en politique. Normalement, il y a ce qu'on appelle la likability, c'est-à-dire l'amabilité. Ça, c'est un vrai paradoxe, puisqu'en fait, les qualités nécessaires pour se présenter... qui sont les mêmes chez tout le monde, c'est-à-dire de vouloir exercer le pouvoir, c'est ce qui rend en général les femmes moins aimables. On s'en souvient avec Hillary Clinton. Donc ça complique vraiment la tâche pour les femmes qui veulent se présenter. Il y a aussi tout un tas de comportements et d'attitudes différenciées, donc l'auto-sabotage, le manque de confiance en soi, la socialisation genrée qui veut qu'on ne parle pas trop fort, on ne s'impose pas... voilà, tout ça joue. Et d'ailleurs, en 2013, il y a un rapport qui s'appelle « Girls Just Wanna Not Run » qui parlait du « ambition gap », c'est-à-dire du fossé de l'ambition, et qui montrait que les hommes, dans 60% des cas, se sentaient très qualifiés pour ces jobs-là.
Même quand ils ne le sont pas, ouais, c'est leur...
Alors que c'était pas du tout le cas des femmes. Et en ce moment, il y a aussi un phénomène qui s'appelle la falaise de verre, qui a été théorisé par des chercheurs anglais, Michel Ryan et Alexander Aslam, qui explique qu'en période de crise, comme c'est le cas en ce moment, les hommes ont souvent tendance à refuser les postes à responsabilité et à les refourguer aux femmes. Donc on voit bien l'exemple de Theresa May en Angleterre, qui hérite d'un bourbier vraiment
total.
What the fuck.
Ouais.
Et il y a aussi un autre paradoxe qui a été pointé du doigt par la politologue française Frédérique Matonti dans son livre qui s'appelle « Le genre présidentiel ». Elle dit qu'il faut faire très attention parce que c'est seulement en apparence que l'ordre des sexes s'est effacé. Alors que le nombre de femmes qui entrent en politique augmente, il y a toujours une vision traditionnelle de l'ordre des sexes qui se manifeste à travers... des propriétés différentes qu'on impute aux hommes et aux femmes en termes à la fois physiques et mentaux, qui est vraiment ravivée, donc en dépit du développement des injonctions à se débarrasser du sexisme. Elle, c'est ce qu'elle appelle un rappel à l'ordre genré. Mmh. Donc, coucou le backlash. Ça continue.
En France et aux États-Unis, d'ailleurs.
Ouais, et alors, on peut se demander qu'est-ce que ça change, en fait. Est-ce que les femmes font vraiment de la politique mieux que les hommes? Moi, je pense qu'on ne peut pas naturaliser des qualités dites féminines. Mais qu'en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça fait d'abord du bien à la représentativité. Puisque des personnes qui ont été longtemps exclues de la politique vont du coup attirer l'attention sur des causes ou des dossiers qui ont été eux aussi très négligés. Donc, par exemple, la santé qui a joué un grand rôle dans cette élection, mais aussi la petite enfance, le congé maternité, l'égalité salariale. Mmh. Et du coup, les femmes ont davantage tendance à défendre ces intérêts-là. Mmh. Et aussi, elles ont souvent de meilleurs résultats, on l'a observé, mais pas parce qu'elles sont meilleures par nature, mais simplement parce qu'elles ont été moins élues historiquement et que du coup, elles ont tendance à compenser en travaillant plus. Donc, tant mieux, on est ravis. On sait aussi qu'elles travaillent mieux horizontalement et de manière plus collaborative. Donc voilà, après, bon, bah, évidemment, il reste des femmes démocrates et des femmes républicaines et cette différence-là, elle continue d'opérer. Voilà. Et alors, il y a pas mal de femmes qui sont dans la lumière en ce moment. Ouais. La nouveauté, c'est surtout aux États-Unis que c'est des femmes jeunes qui se sont affranchies de la politique à la papa et qui jouent pas mal sur l'authenticité. D'ailleurs, à l'horizon des présidentielles de 2020, il pourrait y avoir au moins 4 candidates. Donc, on va en parler tout de suite. Toi, tu...
Alors, moi, j'ai parlé de ma préférée, Alexandria Ocasio-Cortez. Donc, je pense que vous en avez entendu parler, déjà, parce que j'en ai déjà parlé dans un ancien podcast.
Grave.
mais si vous la connaissez pas, c'est une portoricaine, c'est la plus jeune du Congrès. C'est le profil qu'on aime, quoi. Une underdog du Bronx. Elle a été élue par surprise contre un gros bonnet aux primaires démocrates en juin. Elle était serveuse. Et en plus, elle est de gauche.
Et vraiment.
Donc, elle est vraiment de gauche pour les États-Unis. Enfin, Fox est en PLS, quoi. Donc, parce qu'elle arrive avec un programme très fort sur les inégalités économiques, sur une critique de la pauvreté, une critique des écarts, en fait, de richesse américains. Et en plus, elle manie très, très bien les réseaux sociaux. Donc, elle est sur Insta, elle est sur Snap, elle est sur Twitter, elle clash les gens, elle fait des trades, elle est trop forte.
Quand vous vous check into orientation, vous get a swag bag. Look at that, isn't that so cute?
Et ça agace même jusqu'à son parti, puisque effectivement, elle remet totalement à plat les codes en fait de communication traditionnels. Mais après tout, on est à l'heure de Trump qui fait des communiqués sur Twitter, donc j'ai envie de dire, allons-y. et voilà, donc elle a des projets de loi très intéressants sur la gratuité à l'université, une couverture médicale universelle. Bon, c'est quand même pour vous dire que c'est quand même des trucs de base qui sont pas aux États-Unis, mais elle est très intéressante à suivre.
On écoute son discours de remerciement.
We launched this campaign because no one was clearly and authentically talking about issues like the corrupting role of money in politics, like the disturbing human rights violations being committed by ICE, by the fact that no one was giving voice to the idea and the notion that an entire generation is graduating.
Donc, t'as Alexandria Ocasio-Cortez qui dit qu'elle a lancé en fait cette campagne car personne ne parlait honnêtement et clairement de certains problèmes comme le rôle de l'argent comme acteur de la corruption en politique, les violations extrêmement dérangeantes aux droits de l'homme qui sont menées par la police aux frontières, donc la CI, et donc les policiers qui travaillent dedans, et le fait qu'il y ait une génération entière de jeunes diplômés et puis les futurs diplômés qui sont alourdis par des dettes insoutenables qui sont clairement des bombes pour l'économie américaine.
Alors il y a aussi Maxine Waters, qu'on connaît moins en France, qui est une démocrate âgée, noire et grande gueule, donc tout ce que Trump déteste. Elle est députée depuis les années 90, elle s'est opposée avec beaucoup de ferveur à la guerre en Irak. Et ça fait plusieurs mois qu'elle appelle à la démission, à l'impeachment du président. Donc on l'écoute.
And if you see anybody from that cabinet in a restaurant, in a department store, at a gasoline station, you get out and you create a crowd. And you push back on them. And you tell them they're not welcome.
Dans ce discours, en gros, elle dit si vous voyez des membres du gouvernement Trump, même dans un resto ou dans un magasin, foutez-les dehors. Voilà.
On peut enchaîner avec Nancy Pelosi. On en parle beaucoup en ce moment parce qu'elle vient juste d'être élue speaker, donc chef de la chambre basse, et donc elle est chef de la majorité démocrate, et donc elle est vraiment l'une des femmes politiques les plus puissantes du moment. Elle a fait un discours de 8 heures pour défendre les enfants immigrés l'année dernière. Elle vient de gagner une énorme victoire politique face à Trump en le faisant plier sur le shutdown. Donc en gros, c'est la fermeture du gouvernement suite à l'impossibilité de voter une loi sur le budget. Trump, c'est au dire de tous les médias, c'est totalement ramassé sur cette question. Franchement, c'est un personnage à ne pas manquer en ce moment.
On l'écoute.
Let us thank and acknowledge the dreamers for their courage, their optimism, their hope, their inspiration to make America more American.
Donc dans cet extrait, Nancy Pelosi dit remercions les dreamers, donc les enfants nés de parents sans papiers, pour leur courage, leur optimisme, leur inspiration et leur désir de rendre l'Amérique plus américaine.
Alors, il y a aussi Elizabeth Warren, qui, aux États-Unis, est vraiment une des favorites chez les démocrates, notamment pour la présidence. En fait, elle a travaillé dans l'administration Obama. Elle est vraiment socialiste. Elle est experte en économie. Elle est pour l'allègement des lois sur l'immigration et aussi la législation du cannabis. Donc, yes. Mais voilà, un gros bémol, c'est qu'elle dit qu'elle a des origines... Native American, donc...
C'est un peu bof, quoi. On a l'impression qu'elle veut gagner une espèce de street cred bidon en se disant qu'elle est genre 1/25e Navajo. Enfin, c'est bof.
On l'écoute pendant qu'elle elle défonce Trump.
Insecure money grubber who doesn't care who gets hurt so long as he makes a profit off it.
Dans cet extrait, Elizabeth Warren parle de Donald Trump comme un petit... peu sûr de lui, avare, cupide, qui se fiche de blesser les gens tant que ça lui rapporte de l'argent. On a aussi deux autres personnages qui sont incontournables. Donc, tu as Kristen Gillibrand, qui fait beaucoup penser à Hillary Clinton. Elle est très centriste. Elle a un peu évolué sur les questions de société, type mariage pour tous. Elle est maintenant très progressiste. Et elle était d'abord contre un contrôle des armes, mais elle a un peu évolué. Je pense qu'il faut quand même la présenter. Et il reste Kamala Harris, qui vient juste d'annoncer sa candidature pour l'élection présidentielle 2020, en tout cas pour l'investiture démocrate de l'élection présidentielle. Elle rappelle un peu Obama parce qu'elle n'était pas très connue. Avant, elle était procureure et d'ailleurs, ça lui attire des critiques parce qu'elle est critiquée sur la gauche du parti pour sa politique carcérale. Mais c'est aussi une sénatrice de Californie qui est très aimée en ce moment, médiatique, très suivie médiatiquement.
D'ailleurs, on va écouter le témoignage de Hélène Guinu, qui est journaliste au magazine Elle et qui était à ce fameux meeting à Oakland, en Californie. Elle nous donne ses impressions.
Ce qui se passe, c'est que c'est vraiment une candidate qui représente quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que, bon, d'abord, il y a le côté très représentation où on a une femme noire d'origine indienne qui se présente à la présidentielle. Donc, déjà, il y a quelque chose de très fort symboliquement. Donc, ça, déjà, c'est un premier atout. Et ensuite, le truc, c'est qu'elle a l'air positionnée pas trop à gauche comme Elizabeth Warren, et du coup ça rend son profil à peu près crédible dans un face-à-face avec Trump.
Et du coup, est-ce que tu peux raconter un peu comment ça s'est passé là-bas, le meeting, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise, qu'est-ce qu'il y avait des gens noirs, blancs, jeunes, vieux, voilà, je sais pas.
Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un meeting américain, il y a beaucoup plus d'argent, de moyens, c'est pas grandiose par rapport à un meeting français. Donc, si tu veux, en équivalent, je comparais ce meeting de lancement de campagne à un meeting de fin de campagne en France, quoi, en termes de moyens, de gigantisme, quoi. Donc déjà, c'était énorme, il y avait des drapeaux américains partout, une scène hyper bien avec le public à côté, derrière, devant, enfin c'était 20 000 personnes, donc déjà une foule de ouf. Et surtout une foule hyper diverse. Enfin, il y a un moment, le discours allait commencer et il y a une fille qui m'interpelle, une fille noire, et elle me dit non mais regarde ça, c'est l'Amérique diverse, c'est l'Amérique que représente Kamala Harris. Si tu vas à un meeting de Trump, tu verras pas ça. Et c'est vrai que il y avait effectivement des enfants, des adolescentes, beaucoup d'adolescentes, des jeunes adultes, étudiants, des personnes beaucoup plus âgées, beaucoup de personnes noires. Mais après, encore une fois, c'était à Oakland. C'est Oakland, c'est pas San Francisco. C'est une ville hyper diverse. Il y avait beaucoup de locaux qui étaient là, parce que par curiosité aussi. Donc ouais, hyper hyper diverse. La foule était hyper diverse. Ça c'est évident. J'avais un peu l'impression, alors c'est très subjectif, mais j'avais vraiment l'impression de vivre l'épisode 2 de la Women's March, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si on retrouvait les gens un peu plus de 2 ans après, et comme s'ils étaient un peu, ok, on a passé la phase du traumatisme de Donald Trump et les présidents, maintenant on repart au combat, mais en fait, ils étaient déjà prêts pour la Women's March. Et là, c'est la même population. Où, je sais pas, j'ai passé toutes les marches et tout, mais t'as l'impression que ceux qui vont voter pour Kamala Harris, ils retrouveront certainement la même chose pour ceux qui vont voter pour Elizabeth Warren et autres candidats démocrates. Mais c'est des personnes qui ont marché pour les femmes, c'est des personnes qui ont marché contre les crimes de masse dans les écoles, c'est des personnes qui ont marché contre le réchauffement climatique, c'est des personnes qui ont marché contre les meurtres des Noirs américains, etc., etc., quoi.
Et alors du côté des électrices, il y a un enjeu majeur depuis ces dernières années, c'est le vote des femmes noires qui sauve un peu la situation. Il y a un historien qui en a parlé dans Libération, c'est Nicolas Martin-Breteau. Lui a expliqué que le rôle de l'électorat féminin noir était devenu central depuis la première élection d'Obama, donc en 2008, puisqu'elles votent toujours à plus de 90% pour les candidats et candidates démocrates lorsque les élections ont un enjeu national, même si elles représentent quand même une petite partie de l'électorat, c'est-à-dire environ 7% des personnes, elles sont quand même une force centrale dans le jeu politique et vraiment un bloc très loyal du parti démocrate. Et donc, il y a très souvent des célébrations quasiment messianiques qui font des femmes noires voilà, le bastion de la gauche américaine. Sachant qu'en même temps, il y a un vrai mépris quand même de ces électrices qui ont été quand même très maltraitées par le Parti démocrate pendant très longtemps.
Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, en fait, on voit qu'il y a une alliance des femmes noires avec d'autres femmes racisées. Donc, des femmes notamment qui viennent d'Asie, du Moyen-Orient et notamment d'Amérique latine. On voit que pendant une dizaine... En fait, on voit que... Du fait d'un retour ou disons d'une montée des mouvements néolibéraux, xénophobes et sexistes, ces alliances se sont construites et se sont renforcées en tout cas lors des élections. Et c'est intéressant en fait de comparer donc ces alliances, le vote des femmes noires et le vote des femmes blanches.
Boum.
Parce que les femmes blanches
c'est la lose
font partie du groupe avec des hommes blancs. En tout cas, les blancs ont voté pour Trump avec les blancs ont voté pour Trump et donc les femmes blanches ont voté pour Trump avec une courte majorité, donc 53%, alors même qu'il y avait une femme blanche en face. Donc on voit que il y a aussi quand même une question à se poser sur la représentativité. On est obligé de constater qu'il y a d'autres facteurs qui font que les femmes blanches se sont déportées en 2016 sur le candidat Trump. Et malgré le fait que ce candidat œuvrait contre leurs droits en tant que femmes. Parce qu'elles se sont retrouvées dans un... Et donc, du coup, on est obligé d'arriver à la conclusion qu'elles se sont retrouvées dans un discours d'un candidat clairement anti-immigration qui continue à secouer les peurs des blancs et blanches qui auraient peur de se retrouver en minorité. Il y a cette fameuse... étude qui est d'ailleurs maintenant critiquée, qui dit que à partir de 2040 les blancs seraient minoritaires. Et donc du coup ça nous rappelle le discours et les études en fait de certaines féministes noires comme notamment Kimberly Crenshaw qui est la chercheuse qui a théorisé le concept de l'intersectionnalité, qui rappelle la contribution de certaines femmes blanches au maintien de la suprématie blanche.
Le moment
pop
culture,
pop culture.
On va passer à la pop culture. Puisque c'est vrai que dans la vie, en tout cas, être une femme en politique et même être une femme présidente, c'est un peu le dernier palier du plafond de verre. Mais on voit que ça fait quand même un moment qu'il y a des femmes puissantes en politique dans les séries et au cinéma. C'est vraiment comme si la fiction avait anticipé la réalité, était en avance un peu sur la vie. Donc on espère que c'est des prévisions qui vont se réaliser. Notamment en France, dans la série Baron Noir, dans la deuxième saison, le personnage joué par Anna Mouglalis, qui était l'ancienne conseillère du président, tiens, comme Macron, devient présidente.
Vous êtes allé trop loin, Logie, toi. Tu m'as trop menti, Philippe.
Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a aussi la série Borgen, la série danoise, qui est vraiment formidable, qui suit une femme première ministre, que je vous recommande.
Jacob, je viens de parler au secrétaire du parti. Je lui ai dit que tu devais quitter ton poste de vice-président immédiatement. Tu savais que Ben t'avait eu au printemps une embolie et qu'il ne devait pas faire d'efforts. Tout doucement, tu es en train de te positionner car tu ambitionnes de prendre ma place.
Et alors aux États-Unis, il y a la série satirique VIP dont on a déjà parlé et dans laquelle l'actrice Julia Louis-Dreyfus joue une vice-présidente hyper gaffeuse, assez incompétente à vrai dire, et propulsée présidente lorsque le président en place démissionne.
Politics is about people.
Et d'ailleurs, c'est un peu pathétique puisque quand elle fait son adresse au pays, tout ce qu'on retient, c'est que ses chaussures font quick-quick. Donc, personne n'écoute ce qu'elle dit. Voilà. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que son personnage n'est pas élu, mais voilà, qui vient remplacer un président démissionnaire.
Donc, je vais dire juste un petit mot sur Scandal. Si vous n'avez pas regardé, c'est la série de Shonda Rhimes qui dure cette saison, qui parle d'Olivia Pope, qui est un personnage donc, très... très badass, très cool, super bien habillée, donc qui a été inspirée par Judy Smith, qui est l'ancienne directrice de communication de George W. Bush. On peut quand même dire genre gros bout à George W. Bush, mais voilà. Et c'est l'une des premières séries où justement il y a une femme noire qui est le premier rôle et dans une position de très grand pouvoir puisque elle règne un peu sur Washington avec son téléphone et son entreprise.
Est-ce que vous réalisez que vous n'aurez plus jamais l'occasion de revoir le président des États-Unis ? Que vous êtes en train de parler de l'homme le plus puissant au monde ?
Donc il y a aussi la dernière saison de House of Cards. Si on vous spoil, bouchez-vous les oreilles. En fait, notamment grâce à un scandale sexuel qui a touché l'acteur principal de la série, Kevin Spacey, qui a été éjecté. C'est maintenant sa femme, donc Claire Underwood, qui a repris d'ailleurs son nom de jeune fille, qui devient présidente, qui devient calife à la place du calife dans la dernière saison. Et elle choisit en fait un cabinet entièrement féminin. Mais ce n'est pas pour ça que la politique devient bienveillante et angélique, puisque en fait, tout le monde finit par se planter des couteaux dans le dos. Voilà, ce n'est pas non plus la sororité qui triomphe.
Nous espérions que la Russie changerait d'avis. Mais le veto ne m'étonne pas. C'est pour ça que nous avons besoin de soutien pour contourner le Conseil de sécurité.
Je vais quand même finir sur une note positive, en tout cas que j'ai trouvé super positive, c'est Cardi B.
La chanteuse.
Qui est donc la rappeuse du moment, l'icône du moment, enfin l'icône dans le monde hip-hop du moment, qui s'est exprimée contre le plus long shutdown, donc comme je vous le disais, la fermeture du gouvernement, qui privait plus de 800 000 employés de leur paie et qui les mettait en congé forcé. Et elle s'est exprimée dessus sur Insta et je trouvais ça plutôt cool.
But this shit is really fucking serious, bro. This shit is crazy.
Parce qu'effectivement, elle est riche, elle pourrait en avoir rien à fiche, quoi. Mais non, je trouvais que c'était super cool, ça.
Les recommandations culturelles
de Quoi de Meuf.
Alors, est-ce que tu as une recommandation culturelle cette semaine ?
Ouais, en ce moment, je lis un essai politique.
Ça tombe bien.
Ouais. Enfin, c'est à la fois d'histoire, enfin, c'est la science politique, quoi. Donc, c'est un peu d'histoire, un peu de sociologie, qui met le focus sur plusieurs personnages de femmes noires qui sont battues pour l'égalité. Alors, le truc que je trouve super cool, c'est que ça concerne des Françaises, en tout cas des francophones. Par contre, le point, entre guillemets, négatif, c'est qu'il est en anglais.
Non !
Ouais, I know !
Si vous nous écoutez, traduisez ce livre !
Je te jure ! Et donc, du coup, le bouquin, ça s'appelle « Black French Woman and the Struggle for Equality », donc 1848-2016. Donc, ça a été dirigé par Félix Germain et Cylienne Larcher. Donc, Cylienne Larcher, une super sociologue. Voilà. Et science, politiste qui est trop cool. Voilà.
Alors moi, je voudrais recommander une pièce de théâtre qui s'appelle, qui est la bien nommée Speculum, qui se joue jusqu'au 16 février à la Manufacture des Abbesses à Paris, mais qui va sûrement tourner un peu partout en France. C'est joué et écrit par Delphine Biard, Flore Grimaud et Caroline Sahuquet. Elles se sont inspirées à la fois d'études, de lectures, de témoignages, de leur propre vie et de paroles de soignants et de soignantes et de patientes. Il y a des témoignages assez glaçants, notamment, je cite, « Vous avez une mâchoire très étroite, ça ne gêne pas votre conjoint ?» Donc c'est charmant. Donc c'est un spectacle qui évoque à la fois des figures assez oubliées de sages-femmes et d'accoucheuses comme Angélique Ducoudray, qu'on salue, qui explique que le spéculum a été inventé par un vieux misogyne qui le testait tranquillou sur des esclaves. Ouais. Voilà. Ça raconte aussi qu'est-ce qui se passe quand on fait une fausse couche, puisque c'est, ça, on en parle très rarement. Qu'est-ce que c'est que l'épisiotomie? Qu'est-ce que c'est que le point du mari? Comment est-ce qu'on est diagnostiqué ou pas pour l'endométriose? Comment, à une époque, on s'auto-avortait avec un tuyau d'aquarium à la maison?
Au secours, ouais, ouais.
True story. Il y a aussi une super imitation de Benoît de Groult, donc la grande féministe française. Bon, le spectacle part un petit peu dans tous les sens, mais je trouve que c'est quand même rare de voir sur scène un discours sur les violences gynécologiques. Donc, allez-y.
Allô, allô.
Allô,
monsieur l'ordinateur.
Quoi de meuf vous écoute.
Alors, cette semaine, c'est Ninouchka qui nous a écrit. Bonjour Quoi de meuf, auriez-vous un truc cool à me conseiller pour expliquer à un mec pourquoi ce n'est pas drôle de dire en gros « Ah, les règles, Berk, c'est dégueu !» Au secours.
Au secours, quoi.
Et même que c'est problématique de dire ça. J'en tiens un qui commence à me gonfler, d'autant que c'est effectivement mon premier jour de règles. Oups. Là-dessus, et je ne sais plus comment lui expliquer. Voilà, vous seriez des sauveuses, vous l'êtes déjà. Kémis, est-ce que tu peux répondre à... Même en gardant ton calme, non, je crois que ce n'est pas possible.
Ah, c'est
à
clair.
Cette personne.
J'allais dire, mais c'est normal que ça commence à te gonfler parce que c'est gonflant. Que le mec
ouais, même si tu n'as pas tes règles, c'est.
Ouais,
c'est
grave.
Pas normal, en fait.
Alors, t'as quel âge, quoi. Bon, en tout cas, salut Ninouchka. Moi, je ne te proposerai pas une solution qui ouvre le débat et la discussion. Pourtant, je suis d'un naturel diplomatique, mais là, ça ne va pas fonctionner parce que je considère en fait que ça n'a pas lieu d'être. Dire allez règles, Berk, c'est dégueu, on dirait à mon petit frère de 11 ans. Et donc du coup moi je m'adresserai à lui comme mon petit frère de 11 ans parce que cette réaction est totalement immature et en plus insultante pour les gens, pour tous les gens, donc toutes celles et ceux qui ont leurs règles. Donc moi je dirais d'un ton super condescendant, enfin tu sais un peu doux, genre oh mais tu sais il faut grandir un peu hein, faut penser à évoluer hein. Et puis si ça suffit pas ou si effectivement c'est un peu trop agressif, moi ce que je recommanderais c'est lui donner un bouquin, Les règles, quelle aventure de Myrion Mal et Élise Thiébaud, et je crois que c'est adressé aux enfants, donc
oui.
Je pense que le gars va comprendre le message, genre bon, le tête arrêtée. Donc voilà.
Merci pour ces conseils très diplomates. Bon, en tout cas je crois qu'on a fait le tour de la question. On garde notre troisième œil ouvert, rivé vers les États-Unis en attendant. Ouais. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode court. Merci. Salut, Kémis.
Salut, salut.
Quoi de meuf est une émission de nouvelles écoutes animée par Clémentine Gallo.
Et Kémis.
Avec, à la réalisation sonore, Aurore Meyer-Mailleux. À la prise de son, Marine Rowe. Au montage et mixage, Laurie Galigani. Coordination, Laura Cuissard.